bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine. Pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien, et surtout en meilleure santé. Et bien voilà, on est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui accompagné de Véronique Graff, qui m'a été chaudement recommandé d'ailleurs par un de mes invités qui passait sur le podcast en fin décembre, Jeff Bonner, que je salue aujourd'hui et que je remercie pour m'avoir mis en contact avec Véronique. Bonjour Véronique et bienvenue à toi sur le podcast.
Bonjour Jérôme, merci pour ton invitation.
Bon, alors toi, t'es une spécialiste. C'est bien parce que là, on recoupe les sujets, tu vois. On recoupe les sujets entre le sport, le bodybuilding, le strongman aussi, la santé, la mobilité. Je pense qu'il va y avoir de tout dans cet épisode. Ça va être super. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour démarrer, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne te connaissent pas.
D'accord. Mais écoute, je suis massothérapeute. Donc je pratique le massage thérapeutique. Voilà, sur les bodybuilders, les strongman, les powerlifters, spécialisés dans les sports de force en fait. Voilà. Et je suis d'origine, enfin j'ai fait des études de médecine chinoise qui m'ont permis, et de massage en France et en Asie qui m'ont permis de développer cette pratique en fait qui existe peu en France.
Juste, est-ce que tu pratiques toi un sport? Tu fais du body, tu fais du strongman? Strongwoman d'ailleurs, je sais pas comment on dit.
Je fais de la musculation. Bon, je suis une ancienne coach sportive aussi. Dans une première vie, j'étais coach sportif et je pratiquais la boxe. Moi, je viens des sports pieds-poings. Ma discipline à moi, quoi. Et aujourd'hui, je pratique encore la musculation. J'ai plus vraiment le temps de pratiquer un sport, enfin, vraiment un objectif sportif. Je pratique parce que j'aime pratiquer et parce que j'ai un métier relativement physique et qu'il faut assurer les journées. Donc, il faut une certaine endurance musculaire. Il faut, donc voilà. Par plaisir et par nécessité pour ma pratique, en fait.
Et j'ai l'impression que c'est ça, la massothérapie, ça demande quand même pas mal de force dans de force et de résistance musculaire là, dans les mains et dans les poignets. Est-ce que, genre, t'as des mains super balèzes?
Oui, j'ai des mains super belles, effectivement. Oui, j'ai les éminences. Les éminences, disons voir, aussi volumineuses que mes collègues strongman, ouais.
Bon, mais comme tu peux les comprendre.
Mais voilà, ça nécessite de la force, mais pas tant de la force musculaire. Tu vois, on est beaucoup en gainage, en poids de corps. Pour mettre de la pression, parce que je travaille beaucoup en massage profond. Je dirais que en massage profond, quasiment. Et donc, effectivement, quand tu as des gabarits de 130 kilos, il faut quand même avoir une certaine résistance musculaire. Mais ça part plus par le poids de corps que vraiment la force en elle-même.
Ça, c'est intéressant parce qu'on me demande souvent, l'ostéo, c'est la même chose. On utilise le poids de corps, on utilise des leviers qui fait que on n'a pas besoin de développer trop d'énergie ou trop se fatiguer. Enfin, ça, c'est la théorie. C'est vrai qu'après, il y a la fatigue aussi psychologique qui se met en place lorsque tu fais plusieurs rendez-vous. Mais on me demande souvent, en rendez-vous, ça, enfin, on me demande pas, mais ça m'arrive qu'on me donne. Qu'on m'avance une remarque du style vous devez être en forme, vous devez vous entretenir, ça doit être fatigant, etc. Et c'est vrai que ça donne cette impression parce qu'on est toujours en mouvement, on est toujours autour de la personne, on appuie, on mobilise, le corps bouge. Mais en fait, le truc, c'est que c'est tout le corps qui bouge. On a une façon de se moduler pour essayer de se fatiguer le moins possible. Et d'ailleurs, moi, je suis un grand feignant. Dès que je peux m'asseoir, je m'assois sur le tabouret pour pratiquer une technique.
Bien sûr, on développe à la longue des techniques pour s'économiser en fait. On s'économise sur chaque mouvement, sur les positions également. Le fait de pas avoir le dos rond, le fait d'avoir une position neutre, ça nous économise aussi. Donc on développe tout ça d'instinct, je dirais, avec la pratique.
Et tu vois, quand Jeff m'a parlé de toi, c'était à la fin du podcast. Je crois que c'est dans l'enregistrement quand il m'en parle. Et ensuite, j'avais discuté avec lui un petit peu plus en privé sur ça. Il m'avait dit « Ouais, putain, il faut absolument que tu l'aies sur le podcast. Elle est super. Elle a plein de trucs à raconter. » Et alors moi, ce qui m'a un peu accroché l'attention, et c'est vraiment cet aspect, parce que c'est carrément dans la ligne éditoriale du podcast aussi, que tu sois orienté vers... les sports de force, les mecs qui font de l'entraînement, tu vois, voilà, j'ai quand même reçu pas mal de personnes sur le podcast dans ce milieu-là.
Oui, j'ai vu.
Et donc ouais, j'ai trouvé ça super cool. Et en plus, ça fait longtemps que je voulais faire un épisode sur la massothérapie. Et là, c'était parfait. Est-ce que vous êtes beaucoup en France ? Est-ce que tu sais, toi, t'as des collègues à être spécialisés, on va dire, dans ce domaine ?
Non, pas du tout. Non, ça fait maintenant 7 ans que je pratique ici sur Paris et que je me développe dans ce domaine et j'ai rencontré personne.
T'es la seule masso
qui vivait de ça. Et il y a aussi massothérapeute, tu vois. C'est assez compliqué en France parce que le massage pendant très longtemps était réservé aux kinés. Donc du coup, il y a les esthéticiennes qui vont faire ce qu'on appelle, ou les masseurs de bien-être qui vont faire du modelage. C'est un massage qui va rester en superficie, qui sera d'ordre de la détente ou de la tonification. Mais tout ce qui va toucher la pathologie, entre guillemets, ou au déséquilibre musculaire ou à la douleur, va être jusque-là, enfin, et toujours jusque-là, de l'ordre du kiné. Moi, je viens du Luxembourg. Au Luxembourg, il y a en Allemagne, et d'ailleurs, je pense que chez toi également, le métier de massothérapeute existe. Donc vraiment, le thérapeute qui soigne par le massage, ou qui soulage, ou qui traite par le massage uniquement. Mais pas en France. En France, c'est pas une pratique reconnue. Enfin, reconnue. Je travaille légalement, hein, bien sûr. Mais c'est pas un métier, il n'y a pas une filière pour arriver jusque-là, en fait.
Et ce qui fait que comment tu te dénomines, toi, aujourd'hui C'est quoi ton appellation ?
Je me dénomine massothérapeute parce que c'est ma pratique, en fait. Hein. J'utilise vraiment que le massage. Après, c'est des techniques... j'ai étudié beaucoup le massage en France. Je pense que j'ai fait le tour de ce qu'on pouvait faire comme formation en France. Et je suis partie en Thaïlande me former énormément aussi, et du fait que j'ai fait 6 années de médecine chinoise, j'ai aussi beaucoup étudié le massage chinois, forcément. J'ai un mélange, ma pratique c'est un mélange de toutes ces connaissances et de toutes ces formations, adapté à un gabarit un peu hors norme. je me définis vraiment, je dirais massothérapeute. Je suis thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, spécialisée dans le massage.
Ok. Ça m'inspire, et on va en discuter après, tu vois, des différences entre quelqu'un de normal, entre guillemets, et un bodybuilder ou un strongman, tu vois, quand tu parlais de gros gabarits. Je trouve ça cool là, de savoir un peu les différences qu'il peut y avoir et comment tu abordes la personne. Avant ça, ceux qui nous écoutent, ils aimeraient, enfin, quel conseil tu donnerais en fait à ceux qui voudraient faire comme toi, peut-être qu'ils sont déjà dans le milieu du sport et qui aimeraient être masso, qui se voient pas tant faire des études de kiné, ou qui ont pas envie d'être médecin, qui ont pas envie d'être ostéo, peut-être qu'ils sont déjà coach sportif par exemple, mais qui ont envie également d'avoir cette corde à l'arc, parce que je pense à ça aussi parce qu'on voit pas mal de mon côté, moi j'en ai vu pas mal de vidéos sur YouTube de massothérapistes, enfin de massothérapeutes aux États-Unis qui travaillent sur les grands bodybuilders, sur les bodybuilders, donc il y a des trucs qui sont assez marrants à voir, notamment avec des techniques de scrapping, tu sais, où on voit qu'ils ont les bodybuilders qui ont le dos rouge, etc., après une séance de masso. Et si ça peut en inspirer quelques-uns. C'est quoi le bon cheminement si on est en France pour devenir comme toi ? Est-ce qu'il faut absolument passer par toutes les formations que tu as fait ? Est-ce que tu conseilles des trucs spécifiques ? Il y a des raccourcis aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai pris un chemin qui était inexistant, donc j'ai fait mes propres découvertes. Mais c'est sûr qu'on peut faire plus court. Après, tout ce parcours était enrichissant quelque part. J'enlèverai aucune étape parce que c'est toutes ces étapes qui ont fait ce que je fais aujourd'hui. Mais on peut effectivement faire des formations de massage sportif. Il y a de très bonnes écoles en France. Qui vont vous apprendre à travailler profond, vous apprendre l'anatomie, c'est très très important. La bioméca moins, mais après ça c'est des recherches personnelles. Après ça dépend, voilà ce qu'on veut faire en massage et forcément si on veut traiter, si on veut aider le sportif, faut le connaître à fond. Donc voilà, il y a des très bonnes écoles de massage sportif en France. Mais par contre, pour pouvoir travailler sur la douleur, pour pouvoir le faire de façon légale, je dirais, il faut quand même avoir des formations plus longues, d'ordre thérapeute, comme ostéo, par exemple. Si, admettons qu'un ostéo veut spécialiser dans les sports de force, s'il veut se mettre un peu dans le massage ou le kiné, là, c'est déjà beaucoup plus facile puisque vous pouvez intervenir sur tout ce qui est pathologie. Un masseur de bien-être en France ne peut pas. Voyez, tu
Ouais,
vois.
je comprends, je vois.
C'est un peu compliqué, mais voilà. Après, les limites du massage de bien-être, enfin, quelles sont les limites du massage de bien-être et du massage thérapeutique? C'est pas défini quelque part. J'utilise que des techniques de massage de bien-être, au final. Des glissés, que des techniques que j'ai apprises en France, mais que j'adapte avec tout ce que j'ai pu apprendre en Asie. Et du coup, là où je fais la différence, c'est je travaille bien plus profondément. Et quelque part, j'utilise forcément la théorie des méridiens, j'utilise forcément ces connaissances aussi qui m'aident beaucoup dans ma pratique. Voilà, donc c'est vrai que si quelqu'un voulait faire exactement la même chose, il faudrait passer par un cursus plus long, mais encore une fois, comme je te dis, les limites du massage de bien-être et du massage thérapeutique. À partir du moment où tu sais ce que tu fais, c'est que du massage au final, tu vois. Tu peux pas vraiment faire de mal. J'ai jamais aggravé une situation, jamais, jamais, jamais.
Ok, toi quand tu pars en Asie, déjà, c'est quoi ton objectif? T'en es où dans ton cursus professionnel? Est-ce que c'est parce que tu veux t'améliorer? C'est une découverte? Enfin, comment ça se passe? Je suis un peu curieux.
Alors là, j'ai terminé mon parcours de médecine traditionnelle chinoise qui était sur 6 ans. Je pensais pas au final faire que du massage, mais toutes ces études-là m'ont juste permise à être plus efficace dans ma pratique de massage, finalement. Ça m'arrive d'utiliser très souvent la médecine chinoise. D'ailleurs, j'utilise le cupping, les ventouses. Ça, j'en fais vraiment beaucoup aussi parce que ça complète très bien le massage, ma pratique en massage. En fait, vraiment, j'ai fait 6 années de médecine chinoise juste pour compléter ma pratique de massage. Mais
Bon, et
ça a été une passion au long de toutes ces années. Hein. C'était ni long ni difficile en fait. C'était juste passionnant et quand ça s'est arrêté, ça crée le vide plus qu'autre chose. C'était pas un soulagement, mais ça crée plus le vide. C'est
est-ce que
très intéressant.
dès le début, tu as voulu être spécifique chez les sportifs et les gros gabarits, comme ça? Ou alors
Non.
c'est venu progressivement, en fait? Ça a été quoi le cheminement pour en arriver à finalement masser les bodies et des strongman?
Alors, bah écoute, c'était non jamais. Je connaissais même pas les strongman en fait. Comme je te dis, je viens du Luxembourg et je suis arrivée à Paris il y a 7 ans. J'avais déjà fait mes études de massage, donc j'avais quitté une première vie. J'ai tout repris à zéro et j'ai fait une année complète d'études dans le massage de bien-être. Et à la fin de ces études-là, je suis partie en Thaïlande et quand je suis revenue. Je me suis installée à Paris parce que je me suis engagée pour la médecine chinoise et c'était sur Paris. Donc je suis restée ici. Et j'ai en fait, comme j'étais coach sportif, le milieu sportif, c'était juste inévitable. Ça c'était sûr. Et c'est les premières directions que j'ai prises. Et j'ai fait le salon du body. Tu connais, tu as certainement dû.
Bah à Paris là, tous les ans, le body fitness.
Voilà, le salon du body fitness. Et j'étais sur un stand de massage et j'ai rencontré un bodybuilder. Après je l'ai massé, il est venu au cabinet. Et puis un jour, il m'invite à une compétition dans sa salle. Et donc je suis arrivée là et je suis tombée sur une compétition de strongman. Et c'était là le début de tout en fait. Ma pratique ça leur a complètement correspondu. Ils attendaient, enfin c'était très profond. Ils n'ont pas l'habitude. Hein. Ils n'ont pas l'habitude d'être massés. Mais en plus d'avoir un massage qui leur correspond encore moins. Et c'est là que ça a commencé, que je les ai suivis pendant 6 ans.
Alors justement, c'est quoi la différence que tu remarques, toi? Alors peut-être pas encore de ce qu'ils ont besoin, ça on va y venir, tu vois, les techniques. C'est toi, au toucher, c'est quoi les... Alors, mis à part qu'il y a plus de volume musculaire, évidemment, est-ce qu'il y a plus de tension? Est-ce que les tensions sont différentes par rapport à une personne classique?
Entre le bodybuilder... Ah, classique, tu veux dire une personne lambda?
Ouais, entre... Je sais pas, je te pose la question parce que je sais pas trop. Est-ce qu'il y a des différences aussi entre le body, le strongman, la personne normale? Enfin, c'est quoi les trucs que tu as remarqué?
Alors, par exemple, si on prend le bodybuilder et le strongman... Il va y avoir déjà la première des différences, hormis le physique, hein, bien sûr, au toucher, ce sera la densité musculaire. Il n'y a pas la même densité musculaire. Et forcément, il n'y a pas non plus la même proportion entre la masse grasse, la masse musculaire et la masse eau.
Okay.
Est-ce que tu vois ce que...
Ouais, je vois, ouais. Justement, j'avais eu Baptiste Marché sur le podcast qui était un des pros. Alors, c'est pas un strongman lui, hein, évidemment, mais on va dire qu'il est un peu plus dans le milieu du strongman que le bodybuilder classique. Il est, je sais pas si tu le connais, Baptiste Marché, champion de développé couché.
Oui, mais à Bencha.
C'est ça. Et dans la conversation, j'en avais profité pour lui demander un petit peu pour quelle raison dans ce milieu on n'était pas sec, etc. C'est des réponses où généralement j'ai une idée, mais je trouve ça hyper intéressant de la poser et de faire développer un peu la réponse par ces personnes-là qui sont dans le milieu. Et il me disait que voilà, pour être sec, il faut vouloir être sec et que ça n'a aucun intérêt dans le strongman, en tout cas dans les sports de force de manière générale. Donc je vois très bien, ils ont une masse un pourcentage de masse grasse qui est beaucoup plus important que le bodybuilder, qui lui en fait doit trouver un bon ratio entre masse et sèche en fait. Donc ça c'est sûr. Et toi, comment tu le ressens dans la main? Je sais pas si la question elle fait vraiment du sens, mais c'est quoi que tu ressens dans la main? Est-ce qu'il y a des... à part la densité, tu vois, genre t'as un strongman, tu le masses, qu'est-ce que tu ressens exactement?
Alors, qu'est-ce que je ressens? Tu veux dire sur un corps douloureux ou sur...
Ouais, sur un corps douloureux, par exemple, sur une tension, sur... est-ce que... On va faire simple. On va se faire simple parce que c'est vrai que la question, elle est un peu large, elle est un peu difficile. C'est quoi les principales tensions que tu vas retrouver chez un strongman? Juste pour rappeler, le strongman, c'est des athlètes qui font des sports de force, hein. Voilà, pour ceux peut-être qui ne savaient pas. Donc, c'est une catégorie particulière, on va dire. C'est quoi les tensions que tu retrouves particulièrement? Est-ce qu'il y a des trucs spécifiques à cette activité?
Alors, je vais te dire. Donc oui, c'est les sports de force. C'est les gars qui portent effectivement le plus lourd. Mais contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, c'est pas ceux qui ont le plus de pathologies. Tu vois, c'est pas forcément ceux qui ont le plus de douleurs. Ce sera surtout des douleurs d'ordre tendineuse au niveau des épaules et des douleurs de type lombalgie. Parfois des problèmes de genoux également. Mais voilà, ça va se résumer à ça. C'est pas des sportifs qui se blessent énormément.
Et comment tu l'expliques ça? Parce que a priori, moi, je dirais, enfin, a priori, on se dirait l'inverse, tu vois. On se dirait les mecs qui portent des charges hyper lourdes, ils mettent quand même leur corps.
Voilà, contrairement au bodybuilder qui lui est très souvent blessé. Eh bien, peut-être que justement, ce fait du ratio masse adipeuse masse musculaire, il est important pour ça aussi. Les diètes et les sèches que peuvent engendrer le bodybuilding fragilisent énormément les tendons et donc forcément et les mouvements sont différents. Les bodybuilders travaillent beaucoup plus sur des répétitions longues. Les strongman travaillent différemment, ils travaillent pas comme ça. Quand ils portent une pierre, ils la portent pas 20 fois. Ils la portent 3 fois. Au plus. Donc ça, c'est déjà ce qui explique le fait qu'ils se blessent pas, c'est qu'ils répètent pas énormément de fois les mouvements lourds, et aussi ben voilà le fait qu'ils ne fassent pas de diète, qu'ils fassent pas ce genre de choses, ne les fragilise pas. Aussi, faut pas négliger le fait de la technique. Quand on porte très lourd, on a plutôt intérêt à avoir une bonne technique pour pas se blesser. Et la blessure est fatale dans ce genre de sport. Et s'ils ont mal quelque part, s'ils ont mal au dos, ben, c'est fini. Tu portes rien tout le temps de ta douleur.
Toi, tu fais quoi sur un mal de dos d'un strongman? Comment tu l'appréhendes?
Alors, déjà, bon, on fait un bilan pour un peu cibler la douleur pour voir si elle est d'ordre musculaire ou pas. Mais en général, pour un lumbago, pas pour un lumbago, pour une lombalgie ou même une sciatalgie, je vais cibler les muscles fessiers tout de suite.
Ok.
Parce que dans ma pratique, j'ai remarqué que ce genre de problème provenait à 95% des muscles fessiers.
Ok, ouais, c'est intéressant. Pour les bodies, c'est pareil. Et d'ailleurs, pour les personnes normales, on va dire, qui font pas de, pareil. C'est pas des athlètes, c'est la même chose.
Ouais, c'est pareil. J'ai heureusement pas que des strongman et des bodies qui viennent me voir, parce que mes journées seraient pas supportables, je pense.
Ouais.
Mais donc j'ai des gens lambda, bien sûr, qui viennent me voir. Et oui, j'ai une dame, par exemple, d'une soixantaine d'années, une jeune retraitée, qui est venue plier en deux de douleur. Et malgré une grosse hernie discale, c'est le massage musculaire qui l'a complètement libéré de ses douleurs.
Et oui, parce que très souvent, la douleur, elle provient pas réellement de l'hernie, quoi, mais des conséquences que ça engendre, et notamment des douleurs musculaires.
Tout à fait. Je pense que l'hernie, on la découvre parce qu'on a mal, mais elle n'est pas forcément, elle s'est pas développée en quelques jours de douleur. Tu vois, c'est. Donc, bien souvent, il y a une douleur musculaire qui est derrière tout ça. Pas que, bien sûr, hein. Il y a des hernies où il y a une douleur musculaire, mais il y a une. On sent, et ça se sent directement au toucher aussi, quand il y a un problème d'ordre neuro lié au nerf sciatique, en fait. Hein. Donc, quand il y a une douleur superficielle, à ce moment-là, c'est vraiment lié à l'hernie, et donc là, c'est différent.
Attends, ça c'est intéressant. Quand il y a une douleur superficielle, c'est généralement lié à l'hernie, et quand c'est profond, c'est...
Alors quand c'est profond, c'est musculaire. Enfin, après tu peux avoir des tensions musculaires superficielles. Donc là on est admettons sur le grand fessier, tu vois, grand moyen fessier, on est donc sur la superficie, au niveau superficiel. On peut avoir des tensions d'ordre superficiel, mais elles seront pas responsables de la sciatalgie. Parce que le nerf sciatique passe par un muscle fessier profond. Donc si déjà quand on est sur la superficie du muscle fessier du grand fessier et que là la personne déjà a mal, on peut en déduire qu'il y a un problème d'ordre neurologique du nerf sciatique.
Et comment a évolué ta main? Ça fait combien d'années maintenant que tu pratiques ça?
À peu près 8 ans.
Ok, 8 ans. Alors, elle a évolué, tu sais, on dit que la main se fait au fur et à mesure. Est-ce que tu as vu une différence, une évolution, toi, par rapport au toucher, les choses que tu ressentais, que c'était plus précis, des tensions qui te venaient plus facilement à toi, des choses comme ça?
Oui. Et vraiment, le toucher se développe. Maintenant, je ressens, à peine je pose ma main, que je ressens déjà beaucoup de choses. Déjà, la chaleur, tu sais, tu ressens tout de suite, tu sais faire la différence. S'il y a une douleur, en général, il y a une chaleur aussi. S'il y a une inflammation, tu sens la chaleur de tes mains. Les tensions, oui, je sens tout directement, en fait.
Les gens sont surpris quand tu leur dis directement, ils se disent waouh, comment elle a mis la main directement sur le truc.
Oui, beaucoup. Ils sont très surpris parce que ils se disent ah oui, c'est exactement là. Oui, parce que je le sens en fait. Je le sens, c'est pas. Tu sens, enfin, une tension, ce sont des fibres qui sont en contraction, donc forcément, le muscle est différent à cet endroit-là, quoi. Tu vois, c'est sauf que effectivement, pour le sentir, il faut avoir vraiment l'habitude de le sentir. Mais c'est voilà. Souvent, les gens, le retour, c'est que je suis une magicienne. C'est marrant, mais je ne suis pas du tout. C'est juste que c'est ma pratique. C'est un peu comme l'entraînement sportif. Hein. Après, t'arrives à faire des choses incroyables. Bah là, c'est pareil. Je masse tous les jours pendant des heures et depuis des années, et donc du coup c'est un peu comme si tu t'entraînais tous les jours pendant des heures, pendant des années, t'arrives à faire des choses que d'autres ne font pas, c'est logique.
Comment tu fais une différence entre le alors est-ce qu'il y a une différence et comment on appelle ça, tu sais, le nœud musculaire, on entend le nœud, j'ai mes propres avis dessus et... certaines, enfin, mais qui sont pas hyper développées non plus. C'est pour ça que je te demande et que tu vas pouvoir y répondre et avoir un avis qui sera beaucoup plus complet que le mien et je pense que qui va être intéressant à entendre. C'est quoi un nœud musculaire, un spasme, tout le muscle spasmé ou juste certaines parties, tout ça. Je veux dire, comment on différencie? C'est quoi un nœud? Après, il y a aussi le fameux trigger point qui est connu. On différencie tout ça? Tu le différencies?
Alors, ben, le nœud, la tension et le trigger point, je mettrais ça dans la même catégorie. Je le différencie pas, non. Le nœud, le trigger point. Enfin, trigger point, c'est une théorie, en fait, aussi. C'est pas seulement, c'est toute une théorie qui va avec. Mais je le différencie pas. Pour moi, il y a la tension musculaire. Et le nœud, je pourrais l'associer. C'est...
Ok. À part ça...
Je ne sais pas quel point on a dit là-dessus, mais ce serait intéressant pour moi d'échanger là-dessus avec toi.
Non, mais je veux dire, par exemple, est-ce que tu peux sentir une différence entre... est-ce que des fois, c'est tout le muscle qui est tendu, qui est en contraction, c'est l'ensemble du corps musculaire que tu sens qu'il faut que tu travailles? Non, c'est toujours des nœuds par-ci, par-là?
Oui, c'est toujours des parties... c'est à part peut-être des petits muscles, tu vois, comme le supraépineux. C'est parfois, si tu as une grosse tension au niveau du supraépineux, ben effectivement, comme c'est pas un grand muscle, on peut imaginer que tout le muscle est pris. Ça, c'est des sensations comme ça, je peux avoir. Mais sinon, non, c'est vraiment des points assez localisés, plus ou moins grands, en fait. Mais jamais tout le muscle, jamais. J'ai pas rencontré ça, en fait.
D'ailleurs, c'est quoi exactement un trigger point pour toi? Parce que je t'avoue que pour le coup, j'ai du mal à définir ce que c'est. J'ai pas étudié le truc à fond.
Mais je n'ai pas étudié le truc à fond non plus des trigger points parce que c'est encore une théorie, voilà, avec une localisation de points précis. Et j'adhère pas trop à ce qui est établi, en fait, tu vois. Dans ma façon de voir les choses, je prends la personne. Enfin, il y a pas de choses qui sont écrites. C'est comme ça. Un trigger point ou un point ou une tension, on va la traiter exactement comme ça. Quand on a une tension au fessier, elle est exactement là. Non, c'est pas. Enfin, dans ma pratique, c'est pas comme ça que ça se passe.
Parce que la théorie voudrait que les trigger points sont des points précis, quoi.
Pardon, tu dis.
Ce que je veux dire, c'est que dans la théorie, en fait, un trigger point, c'est un point précis qui est
avec une situation précise.
Ouais. Et qui est là tout le temps, en fait. Peu importe les individus, c'est un truc qu'on retrouverait. C'est un point de tension spécifique dans une zone que tu retrouverais chez tout le monde.
Voilà, c'est ça. Alors moi, j'ai des planches anatomiques du système musculaire dans mon cabinet et également des points gâchettes, donc les trigger points. Et parfois, je masse et je regarde mon tableau, tu vois.
Ouais.
Et je secoue la tête, je me dis, bah non, quoi. non, je suis pas là, je suis pas à cet endroit-là. Et tu vois, donc... C'est pour ça, je n'ai pas développé parce que ce qui est écrit n'est pas forcément... c'est une direction, on peut s'y référer, mais le fait de le prendre comme on nous l'a dit, ce n'est pas forcément ma façon de faire. Je critique pas du tout, ce n'est pas ma façon de voir les choses et ma façon de pratiquer.
Ouais, c'est intéressant. Et ce schéma-là de la distanciation qu'il y a entre ce que tu as appris et puis finalement ce que tu retrouves directement en cabinet, est-ce que c'est la même chose sur ce que tu as appris en Thaïlande ou ce que tu as en médecine chinoise, par exemple? Est-ce que tu retrouves un gap entre ce que tu as appris et ce que tu retrouves en réalité?
Alors, ben justement, tu vois, en médecine chinoise... on part pas sur des théories fixes, tu vois. C'est par exemple, on n'a pas de mal, on détermine pas des maladies. On connaît pas l'hypertension, on connaît pas la capsulite, on connaît pas ce genre de choses. C'est on donne pas un nom à une maladie. C'est pour nous, ce sont des déséquilibres. Et en fonction du déséquilibre, eh bien, chaque personne est arrivée par un autre chemin. Parce qu'en fonction de son terrain, en fonction de sa vie, en fonction de tout, quoi, de son alimentation, parce que même ça, même sur le système musculaire, tu peux retrouver des déséquilibres liés à une mauvaise alimentation. C'est là qu'est intéressant d'avoir fait tout ce parcours en médecine chinoise, de comprendre que ce qui se passe à l'intérieur peut avoir une influence sur l'extérieur et surtout qu'on peut l'expliquer, enfin, de par les méridiens. C'est quelque chose d'assez incroyable.
Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? J'avais déjà discuté de médecine chinoise et d'acupuncture, enfin surtout d'acupuncture, qui est un outil de la médecine chinoise d'ailleurs. C'était avec... je me souviens plus. Xavier. J'ai plus son nom, mais c'était l'épisode, je vais le retrouver, c'était un des premiers épisodes du podcast. Où lui c'est un ostéo et puis il pratique également l'acupuncture et ça nous a permis d'avoir des discussions autour de tout ça. Si les gens sont intéressés, il est moins ce podcast était moins orienté sport, moins orienté fitness, entraînement, tout ça, mais beaucoup plus sur la santé, la prise en charge du sport, une certaine prise en charge du sportif, mais vraiment l'aspect beaucoup plus santé. Voilà, Xavier Ganté 5, c'est ça. Épisode 18.
J'irai
ouais, il est quand même intéressant. Moi j'avais aimé l'enregistrer cet épisode, c'était cool. Comment tu définirais toi la médecine chinoise? Parce que c'est vrai que même en ayant discuté avec lui, en ayant discuté avec d'autres personnes, j'ai du mal. Bon, après je suis pas dedans au quotidien non plus, c'est pas un truc que j'ai étudié. Alors je trouve ça intéressant, l'approche est vachement intéressante, tu vois, sur le côté très préventif, très les déséquilibres qui mènent vers
vers la pathologie.
Ouais, vers la pathologie, ou en tout cas vers le déséquilibre, je veux dire, les différents facteurs qui mènent vers le déséquilibre, etc. J'aime bien l'idée. Ça rejoint aussi les concepts un peu ostéopathiques aussi, tu vois. Donc, par contre, j'ai pas étudié le truc parce que le concept de médecine chinoise m'attire pas particulièrement dans ma pratique. En tout cas, j'aime l'idée, j'aime le principe, beaucoup, la prévention. J'ai l'impression que pour moi-même, je pratique une certaine forme de médecine chinoise, tu vois. J'essaie de manger comme il faut. Bon, là, je m'étire pas trop, mais il faudrait. Mais tu vois, je suis dans cet aspect global. Mais dans ma pratique, j'ai pas trop étudié la médecine chinoise. J'ai du mal à la définir. C'est pas un truc qui. Tu vois, c'est con, hein, mais je serais beaucoup plus attiré par des techniques de massage profond. Vraiment en termes de pratique, plutôt qu'aller m'intéresser plutôt qu'aller étudier en profondeur la médecine chinoise, même si en fait les deux sont liés, donc c'est un peu contradictoire.
Dans les principes thérapeutiques de la médecine chinoise, tu retrouves le tuina qui est donc le massage chinois, mais également la médecine manuelle qui est une forme d'ostéopathie en fait, hein, avec des manipulations ostéo-articulaires et beaucoup de travail en contre-résistance. Mais c'est d'ordre voilà ostéo-articulaire. On retrouve ça dans la pratique de la médecine chinoise. Alors moi je le pratique pas parce qu'on l'a pas étudié assez je trouve et que c'est voilà chacun son métier. Il y a les ostéos qui font ça très bien et vous avez 5 ans spécifiques pour ça donc vous êtes beaucoup plus à même à le faire que des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et donc on retrouve pas mal de principes thérapeutiques qui en fait complètent toutes les autres thérapies, à mon sens.
D'ailleurs, tu travailles avec d'autres professions, toi ?
Chiropracteur, essentiellement.
J'ai toujours pas eu de chiropracteur sur ce podcast. Ça fait longtemps que j'en parle. J'ai pas trouvé. J'ai peut-être pas encore trouvé la personne à inviter pour discuter de ça. Là, la chiro... c'est un mystère pour beaucoup de monde, là, les différences. Et pour moi-même aussi.
Oui, entre ostéo et chiro.
Ouais, si tu veux, j'ai des grandes lignes, un petit peu comme tout le monde, mais j'ai envie de creuser le sujet. Quoi.
Ouais. Alors, pourquoi chiro ? Parce que j'ai travaillé, au début de ma pratique, je travaillais avec un cabinet de chiro qui avait rencontré ma façon de travailler, qui avait trouvé ça très intéressant et tout à fait compatible à sa pratique. Et effectivement, c'était un travail très, très enrichissant et pour lui et pour moi. Et donc, du coup, j'ai continué sur cette collaboration. Maintenant, quand mes clients viennent me voir et qu'ils ont un ostéo qui est bien, bah, c'est parfait. Et j'ai pas encore rencontré l'ostéo avec lequel je pourrais travailler, mais voilà, c'est chiro parce que je connais mieux la pratique. Mais voilà, ce serait chiro ou ostéo, au final, c'est la profession qui avec laquelle je dois travailler pour être efficace à 100%.
Ok, tu me parlais donc parce que tu as plusieurs méthodes et approches que tu utilises. Un truc avant, tu vois, que je me suis noté, c'est les fascias. Les fascias, est-ce que tu peux le définir pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est ? Et en quoi le fascia est hyper important en masso ? Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup les massos qui parlent de fascia, qui revendiquent le rôle hyper important de le prendre en charge, de le traiter, de savoir ce que c'est, etc. etc.
Alors, le fascia, c'est du tissu conjonctif, c'est une membrane qui se trouve autour du muscle, qui est un peu plus rigide que le muscle et qui parfois, surtout dans les sports de force que je pratique, donc pour moi le fascia c'est primordial de le travailler parce qu'il va à un moment donné chez le bodybuilder comprimer ce muscle et empêcher le développement musculaire. Et donc cette compression provoque des douleurs et des adhérences. Enfin, il y a plein de déséquilibres qui peuvent se créer et il est très important effectivement de travailler sur ce fascia pour le détendre et pour libérer le muscle qui a besoin d'espace pour se développer.
Ok. Avant que je te demande comment tu travailles un fascia, j'aimerais avoir ton avis sur la théorie. Je sais pas si c'est un truc qui est complètement prouvé. J'avais lu ça dans la dernière méthode de Lavier 3 où Gundy expliquait après les recherches que tout ce qui est les courbatures musculaires après un effort, donc les 24 à 48 heures après un effort musculaire, surtout il va y avoir on ressent tous des courbatures au niveau du muscle. Ceux qui s'entraînent, ils savent exactement de quoi il s'agit. Ceux qui font les jambes, ils savent exactement de quoi il s'agit quand il s'agit de marcher les jours qui suivent. Et en fait, apparemment, les courbatures proviennent pas du muscle. C'est pas, ça serait pas des fuites de calcium ou je ne sais quoi, mais proviendrait, ça serait le fascia qui en fait donne la douleur. En fait, je sais pas si t'as un avis sur ça.
Non, j'ai pas d'avis sur ça. Je l'ai pas vu dans pourtant j'ai le livre. J'ai pas vu la théorie de Gundil sur les fascias, mais bien sûr. Et donc, il expliquerait ça comment par rapport aux fascias? Des déchirures
que c'est, non, que c'est, une, ouais, que c'est un étirement. En fait, c'est l'étirement du fascia lors de ton entraînement, lorsque tu as une phase excentrique importante. Tu sais, la courbature va surtout être là lorsque tu as eu un effort musculaire où tu as eu une tension d'étirement qui est importante. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, on est souvent beaucoup plus courbaturé lorsque on a fait des exercices qui mettaient une forte tension d'étirement sur un muscle. Je pense, un exemple simple, c'est lorsqu'on travaille le biceps, si tu fais du curl avec le coude en avant, donc le muscle n'est pas dans un état d'étirement, mais plus dans un état de contraction au moment où tu travailles, tu vas être susceptible d'avoir moins de courbatures que si tu fais que tu travailles le biceps avec le coude en arrière du corps, où tu vas avoir un étirement qui va se faire au niveau de l'épaule, au niveau du coude. Donc t'as un grand étirement sur le biceps, et quand tu vas le travailler intensément, donc cette tension d'étirement va faire que tu vas être beaucoup plus susceptible de développer des courbatures derrière. Je suis loin d'être physiologiste du truc là, et je vais pas pouvoir donner trop de détails. J'invite à tous ceux qui écoutent à aller se renseigner sur ça, ou aller regarder la méthode de Lavier 3, c'est le dernier. Je crois que c'est dans le 3, ouais, qu'il en parle. Et qu'en fait, à moins que je me trompe et que j'ai vu l'information ailleurs, en fait, et que je prenne ça pour quelque chose que j'ai trouvé dans la méthode de Lavier 3. Mais il me semble que c'est dans le 3. Et qu'en fait, c'est l'étirement du fascia, plus que du muscle lui-même, en fait, qui va provoquer la courbature. Et que la courbature est en fait un message qui provient des capteurs dans le fascia, dans les aponévroses musculaires, dans les fascias musculaires.
Donc, d'après lui, ça provient plus d'une lésion du fascia que du muscle, de la fibre musculaire. Bien, je connaissais pas, comme je te dis, sa théorie, mais alors si je dois ramener ça à ma pratique, je pourrais dire que oui, effectivement, dans ma pratique, ça pourrait correspondre. Je pourrais valider ça à ma pratique. Oui. Pourquoi ? Parce que après mes massages, après mes soins, les gens ont souvent des courbatures.
Ouais.
Et effectivement, bon, je travaille sur le muscle en profond, donc tu génères quand même des contractions, tu fais réagir des muscles qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de réagir. Mais quand même, effectivement, parfois je travaille beaucoup plus en superficie, donc du coup je travaille plus sur le fascia, ou différemment en tout cas, et malgré tout, les gens ont beaucoup de courbatures. Pas tous, mais surtout pour le premier, voire premier, deuxième massage. Okay. C'est parfois... Donc je me dis que oui, sa théorie, je pourrais la valider, oui. Parce que, je ne sais pas si c'est peut-être prouvé, hein, je dis théorie, mais non, il connaît son sujet, mais oui, c'est intéressant. Mais c'est un puits de science, ces livres.
Ah non, c'est intéressant, il faut les lire, ouais, on apprend des trucs.
Oui.
Et d'ailleurs, je crois qu'il recommande, il recommanderait pour ceux qui ont du mal à ressentir un groupe musculaire, et il me semble que je l'avais vu aussi dans une des vidéos de Cher Fitness, la chaîne YouTube Cher Fitness, dont j'ai reçu Aiki il n'y a pas si longtemps, là. Sur le podcast, dans une des vidéos, il dit justement que lorsqu'on a du mal à ressentir un groupe musculaire, par exemple, à savoir le dos, c'est pas une si mauvaise idée de venir faire des exercices sur des courbatures. Mais alors, sans être trop intense, mais parce que ça aide, le fait d'avoir une courbature et d'avoir un petit peu mal au dos qu'on a travaillé, par exemple, la veille ou l'avant-veille, de revenir faire un exercice dessus, pas forcément lourd. Ça permet de savoir où on se trouve, parce que la douleur fait qu'on sait où on est, et de mieux localiser le muscle pour augmenter les chances de recruter les fibres musculaires et pour faire plus de l'apprentissage, tu vois, de l'apprentissage de contraction sur cette zone qu'on a du mal à ressentir. Et donc de travailler sur une courbature peut aider à localiser son muscle, en fait.
Oui, bien sûr, je suis d'accord avec ça complètement.
Bon, et ce qui fait qu'en fait, ça détache un peu cette idée préconçue qui est la courbature provient du muscle, et donc lorsqu'on a une courbature, il faut absolument pas s'entraîner parce que ça veut dire que le muscle est en récupération et qu'il faut pas y toucher. Et bien, le fait d'avoir détaché ça, en fait, cette idée-là, c'est ça, ça décorrèle complètement finalement l'entraînement de la courbature. Donc si le fascia a été étiré, au final, la douleur n'est pas nécessairement corrélée avec le niveau et le stade de récupération musculaire. Ce qui fait que c'est, on comprend que, on peut comprendre que c'est moins grave de s'entraîner sur une courbature en s'échauffant, etc., tu vois, que ça en a l'air ou que ce qu'on pourrait croire, qu'on pouvait croire il y a quelques années, quoi. Genre, courbature, non, t'entraînes pas, t'es en pleine récup. Et en fait, c'est pas forcément, voilà, y a pas forcément un lien direct, quoi.
Ouais, il y a beaucoup de théories comme ça de théories qui sont pas forcément comme ça dans les faits. Même dans ma pratique aussi, dans le soin également.
Comment tu le travailles, le fascia, toi? T'as des techniques spécifiques?
Bah écoute, je travaille en ventouse baladeuse. C'est-à-dire que...
on me l'a fait ça il n'y a pas si longtemps. Ouais. J'avais été voir une collègue à une clinique qui, justement, c'était la première fois qu'on mettait les ventouses. C'est assez marrant. Est-ce que tu m'entends?
Oui, je t'entends, oui.
Ok, et est-ce qu'il y a eu une coupure peut-être parce que t'as entendu ce que j'ai dit?
Je sais pas ce qui s'est passé. Effectivement, il y a eu une petite coupure, mais je suis là.
Ok, je verrai si j'enlève du montage ou si j'ai la flemme. On verra en direct live. Donc je disais oui, j'ai testé les ventouses. On me l'a fait pour la première fois, ouais, de me coller une ventouse et en fait de la faire déplacer sur le corps. C'est assez marrant comme sensation. Et ça travaille spécifiquement le fascia alors?
Alors ça travaille, oui, bah spécifiquement, effectivement, sur le fascia, mais assez superficiel. Après, le reste, ce sera en massage profond que tu vas travailler les fascias. Tu vas détendre les fascias. Mais oui, voilà, les ventouses baladeuses, c'est vraiment pour travailler sur les adhérences au niveau des fascias. Adhérence et détente du fascia, parce que dans le fait de la balader, tu vas étirer la fibre et donc, par conséquent, la détendre. Voilà le principe, en fait.
La fibre du fascia, pas du muscle.
Bah, le muscle avec, en même temps, jusqu'à une certaine profondeur. Puisque voilà, quand tu mets une ventouse, il y a quoi, 1 cm. Donc voilà, tu ne peux pas vraiment travailler en profondeur avec une ventouse. Ça va rester assez superficiel.
Et quand tu fais du massage profond, comment tu différencies lorsque tu travailles plus le muscle ou plus le fascia?
On peut pas vraiment le différencier. Quand on est profond, c'est difficile de différencier le muscle du fascia. Tu travailles le muscle et le fascia en même temps. Tu peux pas vraiment travailler l'un ou l'autre.
Ok.
Tu travailles le muscle obligatoirement. Tu dois passer par le fascia. Tu vois, c'est le muscle est entouré par le fascia. Si tu travailles une tension musculaire en profond, ben forcément, tu as un impact sur le fascia. Tu peux pas faire autrement.
Qu'est-ce que tu penses du scrapping? Il y a plusieurs appellations, mais scrapping, le gua sha aussi. Tu sais, c'est les techniques où ça, tu viens frotter avec un outil. C'est ce qu'on peut voir sur certaines vidéos et ça fait des grosses rougeurs sur la zone.
Effectivement. Bien, c'est une pratique de la médecine traditionnelle chinoise, le gua sha. C'est utilisé en médecine chinoise avec des outils en jade. Donc, tu as déjà dû voir ça. Ouais. Et aux États-Unis, ils ont sorti toute une gamme, effectivement, en acier chirurgical. Et ils pratiquent cette technique. Alors, pour détendre les fascias, ça marche aussi. Encore une fois, les fascias superficiels. Par contre, je trouve que le massage profond allié aux ventouses, c'est beaucoup plus efficace et moins agressif pour la peau, pour le muscle en lui-même. Je trouve que c'est assez douloureux quand même. C'est chinois. Ils aiment travailler de façon douloureuse.
C'est assez impressionnant en plus là. Ce qu'on peut voir, c'est que ça donne des rougeurs. Enfin, t'as l'impression vraiment d'avoir écorché la personne à vif, quoi.
Oui, voilà. Et bon, il y a voilà, c'est également assez douloureux. Donc, je pense que quand on peut épargner un petit peu de douleur aux gens, c'est avec le massage profond. Le massage profond, c'est quand même quand on travaille sur une tension, c'est douloureux. Il faut pas négliger. Mais c'est autre chose que de frotter avec un outil métallique. Et on laisse la peau quand même un petit peu. C'est pas ma façon de faire, mais je connais la pratique et effectivement ça travaille sur les adhérences des tissus. C'est efficace, mais quand on sait masser, il vaut mieux passer par le massage. C'est plus agréable pour la personne aussi.
Est-ce que tu as d'autres méthodes, mis à part là, tout ce qu'on a parlé, là, donc deep, massage profond, ventouse, technique de scraping, tout ça, est-ce que tu utilises d'autres noms, d'autres techniques, d'autres approches?
J'utilise la moxibution.
Tiens, quel merveilleux nom. La moxibution, c'est quoi? Ça me parle pas du tout, je sais pas ce que c'est.
Alors, c'est du moxa. Le moxa est une... c'est de l'armoise en fait, c'est une plante chinoise qui est compactée et que l'on allume, qu'on va chauffer, qui va chauffer jusqu'à 800 degrés et qui en général est, on va la retrouver en forme de bâton ou en forme ou des petits cônes qu'on va poser sur les points d'acupuncture ou sur les points hachi. Les points hachi en médecine chinoise, ce sont les points douloureux où on les pose sur les aiguilles d'acupuncture. Voilà. Moi, je pratique le moxa sur des douleurs très profondes d'ordre tendineuse que je ne vais pas réussir à soulager complètement avec mes mains. Je vais réussir à retirer 80% de la douleur, mais il y aura toujours une gêne, il y aura toujours quelque chose qui va empêcher le sportif d'effectuer son mouvement correctement. Bon, quand on est sur une personne lambda, ça pose pas vraiment de problème, mais quand on est sur un bodybuilder qui est en prépa, quand on est sur un strongman où le moindre centimètre est important, enfin le moindre muscle est important pour une compétition, on va chercher quand même à le soulager à 100%. Et donc, cette technique de médecine chinoise me permet vraiment d'aller au bout de mon soin, vraiment. Ça a retiré beaucoup de douleurs qui étaient récurrentes et que personne n'a jamais réussi à retirer. Et donc, le principe, c'est d'apporter, par le biais de l'aiguille, une chaleur suffisamment forte pour détendre et faire circuler. Parce qu'en médecine chinoise, on part du principe que la douleur est une stagnation de sang et d'énergie, un peu comme à l'image d'un hématome. Et donc, le principe thérapeutique serait de faire circuler la stagnation pour libérer la douleur. La chaleur étant le meilleur moyen de faire circuler. Voilà.
D'accord. Bah justement, c'était ça, je voulais te demander un peu le fonctionnement qu'il y a derrière. Donc, alors moxibustion, parce que je regarde en même temps des images là sur Google. Moxibustion, moxa.
Moxibustion, moxa, tout à fait.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu utilises encore, que je ne connaissais pas, tu vois, je viens d'apprendre un truc là.
J'utilise encore, non, je pense que c'est tout. Les étirements, c'est pas... c'est pas exceptionnel.
si, pour beaucoup c'est exceptionnel les étirements, pour moi même il faudrait que j'en fasse beaucoup plus. D'ailleurs c'est marrant, je me suis fait rappeler à l'ordre par ma collègue massothérapeute qui m'a dit il faut que tu t'étires.
Mais oui,
je m'étire pas assez,
c'est mais bon, je t'avouerais que pas grand monde, tout le monde sait que c'est important,
bien sûr,
mais malheureusement personne s'y applique.
Mais ouais, parce que en fait, c'est ça. C'est que si t'as pas de, mais c'est ce que je dis moi souvent. Hein. Et d'ailleurs, quand je donne des exercices d'étirement ou de mobilité, j'essaie d'en donner un ou deux maximum en général après mes consultations, d'être le plus précis possible sur le mouvement pour enlever tout frein à la pratique de l'étirement. Parce qu'en fait, quand t'as déjà, il ne faut pas que ça soit trop compliqué, parce que sinon tu ne le fais pas. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps, sinon tu ne le fais pas. Et puis, il y a un grand truc aussi de l'être humain, en tout cas en Occident plus, c'est que quand tu n'as pas de douleur, quand tout va bien, il n'y a aucune raison de... Tu n'y penses pas, tu vois. Et puis, c'est même pas qu'une question d'idéologie du genre j'ai pas mal donc j'ai pas besoin. C'est juste que t'y penses pas, tu vois. Moi, quand j'ai pas de douleur, dans ma journée passe ça. Et le soir, il n'y a pas un seul moment où j'ai pensé à m'étirer. Ça m'est même pas venu dans ma tête. Et c'est pour ça que c'est important de l'intégrer. Si tu veux le faire, c'est de l'intégrer à une habitude. Et alors, quand il y a une douleur spécifique et que moi je conseille un étirement, et j'essaie de le dire à la personne, de le coller à une habitude, de faire quelque chose qui va être très procédural. Tu vois, je lui donne une étape, je lui dis voilà, fais ça 30 secondes, comme ça, tu fais ça, tac, 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 tac. Ça dure tant de temps, comme ça tu quantifies, ça prend pas de temps, et puis hop, t'essaies de la caler à un moment particulier dans ta journée où tu sais que tu t'oublieras pas, tu vois, tu le joins à une habitude. Et comme la personne est dans un état encore un peu de douleur, de rémission, etc., elle va penser à le faire les premiers jours, mais on va pas se le cacher, quand il y a plus de douleur, il y a plus de raison de faire l'étirement, en fait, il saute, quoi. Il saute parce que déjà, on n'a pas envie, et ensuite parce qu'on oublie totalement et qu'on n'a plus besoin.
Oui, c'est vrai.
Enfin, qu'on n'a plus besoin. Qu'on pense qu'on n'a plus besoin. Mais je fais partie de cette catégorie aussi, parce que je m'étire pas. C'est assez...
Au cas où mes clients m'entendraient. Sinon, je serais plus légitime à le conseiller.
Non, mais c'est ce qu'on dit, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Bon, on sait qu'il faut le faire, on ne l'applique pas toujours, on n'est pas parfait. On aimerait pas.
Moi, j'essaie toujours de négocier ça parce que les sportifs que je vois, tu vois, s'entraînent parfois trop, à mon sens. Et ils sont beaucoup ils ont beaucoup d'accumulation et pas suffisamment de récupération. Et c'est difficile en fait pour certains sportifs de haut niveau. Tu vois, le body c'est un mode de vie. Je m'entraîne tous les jours. Je mange tous les jours, je respire tous les jours, je m'entraîne tous les jours. C'est un mode de vie le bodybuilding. Donc c'est difficile parfois de leur faire intégrer d'avoir suffisamment de récup. Alors j'essaye de négocier, je lui ai dit, bah, écoute, t'essayes de prendre 2 jours de récup et sur une des 2 journées, tu travailles tes étirements sur tous les groupes musculaires, tu te prends une demi-heure, c'est déjà pas mal, et t'essayes de faire ça au moins une fois par semaine. Donc c'est pas, tu vois, c'est une fois par semaine, c'est un jour où ils doivent pas s'entraîner parce qu'ils ont mal, parce que je les ai massés, et que s'ils veulent reprendre l'entraînement, bah, il faut qu'ils s'arrêtent un tout petit peu. Et donc, pour faire passer le temps, pour faire passer la pilule de l'étirement aussi, j'essaye de leur faire intégrer ça dans un jour de récup. Mmh. Et ça passe. Pour certains, ils essayent de le faire parce que, voilà, déjà, le fait de ne pas pouvoir s'entraîner, c'est très contraignant pour eux. Donc, ils essayent de tuer le temps à faire autre chose. Et quelque part, ça leur met un pied dans les étirements quand même.
Tiens, d'ailleurs, pour tout savoir sur les étirements, je recommande à tous, là, et puis à toi aussi, Véronique, le podcast que j'avais fait avec Aurélien Broussal, qui est un grand spécialiste de la préparation physique. On avait parlé beaucoup de mobilité et d'étirement. Et dans cet épisode, donc non, je le recommande chaudement. Moi, il m'avait appris quelques trucs, et puis surtout, il a remis un peu à jour... Les informations qu'on avait sur est-ce qu'il faut s'étirer avant, après, pendant, enfin pendant, non pas pendant, mais...
Ah, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de théories.
Oui, voilà, c'est ça. Donc on a eu l'occasion de discuter de tout ça dans cet épisode, d'essayer de voir qu'est-ce qui se dit le plus, qu'est-ce que les études montrent aujourd'hui. Bon, sans spoiler, aujourd'hui on dit que ça dépend de l'objectif en fait, et c'est là tout le truc, c'est que ça va dépendre de l'objectif de l'étirement. Et en fonction de l'objectif, tu vas pas le faire au même moment, tu vois. Et l'étirement après la séance de sport, juste après, en suivant, n'aurait visiblement pas de bénéfice physique. Mais ce que disait Aurélien, c'est que ça pouvait avoir un bénéfice psychologique. Et je vous laisse découvrir tout ça dans l'épisode 25 parce qu'il en parle très bien. Est-ce que tu aurais un autre conseil à donner aux sportifs en général, mis à part les étirements, hein, de faire des étirements, est-ce que tu aurais d'autres trucs à conseiller?
Alors, ce que je vois souvent et ce que je conseille souvent, c'est de ne pas s'entraîner sur une douleur, effectivement. Après, je travaille dans le milieu de la force, donc quand ils s'entraînent lourd, et parfois, voilà, c'est pas la douleur qui les arrête. Et ils préfèrent oublier ou essayer d'éteindre cette douleur que de l'écouter. Seulement, c'est comme une carie si on le prend dès le départ. Voilà, ça s'arrange très vite et si tu laisses traîner, eh bien, c'est la grosse blessure qui t'attend. Et si j'ai un conseil à donner, effectivement, pour ceux qui ont un objectif, c'est que dès qu'il y a une douleur, d'essayer de faire ce qu'il faut pour la traiter.
Très bien, j'ai pas grand-chose à rajouter. Ça me convient. Ça me convient comme conseil.
Après, il n'y a pas beaucoup, comme dit, il n'y a pas beaucoup de massothérapeutes en France. Mais il y a des ostéos qui font très bien leur travail et qui font ce qu'il faut, mais il faut aller les voir. Effectivement, faut pas hésiter à faire ça plutôt que de continuer et se dire non, ça va aller, il faut que je m'entraîne, il faut que je fasse ma prépa, il faut que si. Non, parce qu'à un moment, cette douleur-là va stopper cette prépa et handicaper complètement et l'ostéopathe, le massothérapeute auront plus d'impact sur ça et la douleur sera trop importante. Donc voilà. Voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est ça. Parfois, c'est rien, c'est qu'une tension musculaire ou simplement un petit décalage ostéo-articulaire qui se résout en une séance et qui permet une prépa au top. Voilà. Ce serait mon conseil, en tout cas.
Ah, parfait. Si on pouvait revenir 10 ans en arrière, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre?
Alors, je dirais de jamais cesser de croire en ce que tu as envie de faire. Malgré ce que les épreuves que la vie peut te mettre, les obstacles que tu peux rencontrer, voilà, de jamais détourner de ta route si tu penses que c'est ce que tu veux faire. Voilà, accroche-toi et au bout, il y a forcément ce qui t'attend.
Toi, tu sens que tu as eu pas mal d'obstacles pour faire ce métier. C'est ça dont tu parles?
Oui, c'est ça. Ben, parce que je viens d'un autre pays, d'une autre profession. Et du coup, effectivement, je suis partie de zéro et j'ai créé un petit peu mon chemin. Parce que comme je te dis, j'ai pas rencontré d'autres masseurs qui étaient dans cette discipline. Il n'y a pas de formation qui te mène à pratiquer sur ce genre de sportif. Il n'y a que tes mains et ta passion, en fait. Hein. Donc oui, c'était pas évident parce que, pareil, bon, tu connais le problème quand toi tu es ostéopathe, tu as dû mettre en place un cabinet. Tu sais que te faire une patientèle, c'est long. C'est parfois très long. D'autant plus quand tu pratiques quelque chose qui n'existe pas. Quand t'es une nénette de 55 kilos et que tu dis non, viens, mais je te masse 130, moi, ça me fait pas peur. Bon, la crédibilité, elle est pas forcément là tout de suite, tu vois. Donc, ouais, t'as beaucoup d'épreuves. T'as des preuves à faire, en tout cas.
Ok. Ça, c'est ouais. Bah, t'as raison de mentionner, en plus, même l'ostéo, qui est quelque chose de connu, c'est assez... Enfin, qui est connu. Les gens connaissent de manière générale de plus en plus, mais c'est vrai qu'il y a encore tout ce travail d'éducation sur...
Oui, parce que l'éducation, ici, c'est vraiment d'abord le médecin, le kiné, enfin le médecin, l'ordonnance médicale, le kiné, les examens, enfin voilà, ça c'est notre éducation. Donc, si on a mal quelque part, c'est la première logique pour... grand nombre de personnes, mais ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'ostéopathes aussi. Du coup, c'est peut-être le fait du nombre aussi qui est plus compliqué.
J'en ai discuté déjà auparavant avec des collègues là, au sein même de ce podcast. Hein. Je ne vais peut-être pas tous les mentionner parce qu'il y en a eu plusieurs, mais moi, je me souviens de David Ferreira. On avait fait une bonne partie sur l'installation, sur comment démarrer. Je crois que j'en avais discuté, c'était avec Erch Sari aussi, on avait discuté beaucoup sur la région parisienne. Il y avait tellement de monde, c'était très difficile de s'installer en tant qu'ostéo. Que ça prenne du temps, avec qui j'ai dû en parler aussi. Donc, Erch Sari, c'était l'épisode 20, l'épisode 23 avec David Ferreira, qui est kiné-ostéo. J'ai dû en reparler peut-être, je regarde un peu plus récemment, Bon bref, je vais pas regarder tous les épisodes là, mais j'ai eu discuté de ça, de l'installation du thérapeute, de l'ostéo, la patientèle. Avec Thomas Desroux aussi, un des premiers épisodes, il me semble. Thomas Desroux, ouais. Épisode 9 d'ailleurs. C'était un ancien collègue de promotion qui aujourd'hui est installé à Tahiti. Et puis on avait fait un petit passage sur la façon dont on peut se faire connaître. Et lui, comme il travaille avec les crossfitters aussi. Et que il avait expliqué comment il en était arrivé à travailler avec les crossfitters, quelle avait été la démarche, et que il avait été directement dans une box de crossfit pour proposer ses services, etc. Donc j'en ai discuté tout ça. Je sais pas si ça intéresse la majorité des auditeurs, parce que ça reste un sujet spécifique, professionnel. Il y a plein de choses à dire, j'aurais beaucoup de choses à dire, ça c'est certain. La visibilité, il y a un gros travail de visibilité aujourd'hui, que tu sois que tu travailles dans n'importe quelle activité commercial entre guillemets. Alors il y en a plein qui aiment pas, mais on est un espèce de commerce aussi, puisqu'on propose un service, donc différent de ce que peut faire un service de traiteur par exemple, mais au final on fait du service, on a besoin de rejoindre des gens de manière de visibilité pour qu'ils voient. Il y a la confiance qui s'établit, c'est pourquoi elle va venir te voir, pourquoi il va venir se voir ce thérapeute plutôt qu'un autre. Il y a la différenciation, il y a la communication, il y a faire passer un message, il y a plein de trucs à dire. Donc peut-être que j'en parlerai dans un futur sur comment s'installer en tant qu'ostéo. Je sais pas, on verra. Je sais pas si ça intéresse trop. Faites-moi vos retours de toute façon hein, dans les épisodes. Vous pouvez directement m'écrire par mail. Hein, vous trouverez mon mail rien que sur le site du podcast. Hein, il y a une adresse email. Puis vous pouvez me retrouver là sur les réseaux Instagram aussi. Hein, le compte Instagram du podcast. Si ça vous intéresse, si des choses que vous avez envie d'en apprendre, je pourrais faire un épisode en parler plus. Mais effectivement, c'est pas si facile et ça vient pas comme ça. Et si t'as pas pour conclure, si t'as pas un petit peu une mentalité de développement et de création d'entreprise, parce qu'on en est là, si t'as pas ça, c'est pas facile. Aujourd'hui, en tout cas, à l'ère actuelle où on est beaucoup, eh ben c'est pas facile de sortir. Et les prochains, je sais pas où en sont les écoles aujourd'hui, si elles donnent des cours de marketing. Encore un gros mot, mais pour moi c'est pas un gros mot le marketing. Mais je sais pas si elles donnent des cours de marketing, si elles donnent des cours de communication de manière générale. Mais il faudrait, je pense, ça serait. Parce que là, les prochains qui vont sortir, il y a de plus en plus de monde, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, s'il n'y a pas une compétence derrière de se vendre et de se montrer, d'expliquer ce qu'on fait, ça peut prendre beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des redirections professionnelles, des changements, quoi, finalement, des ostéos qui se disent, c'est trop difficile, c'est trop difficile d'avoir des patients, donc j'arrête. Ce qui peut être dommage. Avant-dernière question. Est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor, toi ?
Non, je peux pas dire que j'ai eu un modèle ou un mentor. Non. Non. Après, j'ai eu des courants philosophiques qui m'ont aidé. Par exemple, je viens des sports de combat. Et du coup, j'ai eu un enseignement qui était très proche de celui de Bruce Lee. Donc du coup, okay. J'ai toute une philosophie. Ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Ça m'a influencé dans toute ma vie. S'il y a une chose que voilà, donc peut-être indirectement qui m'a influencé. Mais sinon, aujourd'hui, non, je peux pas dire que j'ai suivi le chemin de quelqu'un vraiment. J'ai suivi un chemin qui m'appelait et j'ai fait toujours ce qui me plaisait au moment. Tous les jours, tu vois, j'ai fait le choix qui me plaisait à chaque fois et j'en suis arrivée là. Donc, après, il y a, comme je te dis, il y a des sagesses plutôt qui m'ont guidée, mais pas tant une personne ou un parcours, tu vois.
C'est bon, ça me va aussi. De toute façon, Bruce Lee, dans un sens, j'avais jamais parlé de Bruce Lee, mais tu vois.
On est loin de ce qu'on discute là, mais. Du coup, c'est quelque chose qui a influencé beaucoup ma façon d'être, en fait. Hein. Donc, et ça, c'est vrai que ça m'a donné la force de me confronter à beaucoup de choses sans en avoir vraiment peur.
Est-ce qu'il y a un livre
je pense que, voilà,
t'a marqué là-dedans?
Pardon?
Non, vas-y, je te laisse finir la phrase. J'allais faire un pont.
D'accord. Je disais que pour commencer, pour faire des parcours comme ça, il faut quand même mettre ses peurs de côté, parce que l'inconnu fait peur, et donc si je m'étais arrêtée à ça, j'aurais pas creusé mon fossé. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux ostéos, mais pareil pour les masseurs, il y en a beaucoup aussi, et pour réussir, je pense qu'il faut faire la différence. Il faut proposer quelque chose qui t'est propre et que d'autres personnes ne proposent pas et qui, bien sûr, peut intéresser. C'est ce que je me suis toujours dit, et j'ai cherché ce qui était pour moi ma différence. Ma différence, bon, ben, je l'ai trouvée aujourd'hui, quoi.
Super. Est-ce qu'il y aura un livre que tu auras envie de recommander qui peut-être aurait... C'est là où je voulais faire le pont entre cette philosophie dont tu parles et peut-être une recommandation d'un livre.
D'un livre philosophique?
Ouais. En général, je demande toujours en fin d'épisode s'il y a un livre, parce que j'aime bien lire moi et puis j'aime bien avoir des recommandations. Mais s'il y a quelque chose là-dessus, je pourrais être curieux. Mais s'il y a un autre livre que tu as envie de recommander, qui t'a beaucoup marqué, que t'as particulièrement apprécié et qui n'a pas de lien avec la philosophie dont tu parles, c'est bon aussi.
Alors, je jette un œil sur ma bibliothèque, mais d'un point de vue philosophique, non. Mais pour tout ce qu'on a discuté avant, il y a effectivement quelque chose qui me suit depuis, je dirais, au moins 20 ans. Peut-être pas 20 ans, mais 15. C'est les livres de Fred Delavier. Je dois avouer que, encore aujourd'hui, tu vois, par exemple, ce qu'on discutait en début de podcast avec les fascias, c'est la théorie de Gandil. Parfois, je rencontre des choses dans ma pratique que j'arrive, des énigmes, en fait, que j'arrive pas à expliquer, que j'arrive à soulager, moi j'aime comprendre ce que je fais pas pour faire, je veux comprendre et pouvoir expliquer à la personne aussi, lui faire un retour sur ce qu'elle a, pourquoi c'est arrivé et pourquoi, comment l'éviter surtout. Donc il y a parfois des choses que j'arrive à faire sans le comprendre, et j'avais une énigme comme ça qui m'a suivie pendant plus d'un an, que j'ai découverte là récemment, justement dans le même livre dont tu parlais, et qui a résolu cette énigme, en fait. Et quand j'ai fait mon diplôme de coach il y a plus de 20 ans, je lisais déjà, je crois que c'est, enfin 15 ans, je lisais déjà des livres de Fred Delavier. Et aujourd'hui, je suis thérapeute dans un domaine très différent, et je lis encore ces livres qui m'inspirent et qui toujours m'aide à comprendre certaines choses. On a beau lire quelque chose, si on n'a pas le cas pratique ou le cas clinique qui va avec, on fait pas forcément le rapprochement. Mais voilà, si j'avais quelqu'un à conseiller à mes amis sportifs, ce serait ces livres.
On va essayer de l'avoir, le Frédéric Delavier et le Michael Gundil aussi. On va essayer de l'avoir sur le podcast. Ça fait longtemps que je veux les avoir. Et dites-moi tous en commentaire là, si vous avez envie qu'ils passent sur le podcast. dites-moi si ça vous intéresserait d'écouter, d'entendre Frédéric Delavier ou Michael, et les deux. Alors peut-être pas en même temps, mais parler. C'est vrai que je pourrais avoir beaucoup de questions à leur poser. Et ça pourrait être hyper intéressant. On a fait un bon tour, Véronique. C'était un plaisir de discuter de tout ça, les fascias, la masso. Il y a des choses dont on n'est pas forcément revenu, mais peut-être l'occasion de faire un épisode 2, peut-être plus tard, avec des sujets un petit peu plus spécifiques. Si les gens veulent te retrouver, parce que toi tu travailles sur Paris, s'ils veulent savoir où c'est que t'es, s'ils veulent peut-être prendre contact avec toi, te retrouver sur les réseaux, où c'est qu'on peut les renvoyer?
Eh bien, écoute, sur mon compte Instagram ou mon compte Facebook, à Vérographe.
Ok.
Et voilà, il y a toutes mes coordonnées. Ils pourront me retrouver très facilement.
Ah, très bien. Eh bien, on laissera ça dans la description.
Voilà, Vérographe, tout simplement.
Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de rajouter ou un message à faire passer ?
Eh bien non, on a fait le tour. Enfin voilà, j'espère sincèrement que ma profession va se développer. J'espère qu'il va y avoir des amateurs pour s'occuper de ces catégories de sportifs qui sont un peu laissés pour compte, je pense. Enfin pas je pense, je sais du fait de leur gabarit. Voilà, c'est un métier passionnant et de suivre des athlètes pendant leur préparation, c'est un privilège, je trouve. D'avoir la confiance d'un athlète, c'est pas rien. Donc voilà, j'espère que cette profession va se développer. Et si jamais, voilà, tu posais la question sur le parcours tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est difficile à dire comme ça, mais s'il y a des personnes qui ont des questions par rapport au parcours qu'ils pourraient prendre, par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui, enfin, je peux répondre à leurs questions sans aucun problème. En discuter avec eux et leur conseiller ce qui leur conviendrait de mieux.
Excellent. Si vous pensez que ces épisodes, de manière générale, vous apprennent des trucs ou font découvrir des pratiques, ou font découvrir des thèmes, des sujets que vous appréciez, vous pouvez partager cet épisode. Ou si vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un, continuez à envoyer les épisodes à votre entourage, à partager sur les réseaux sociaux aussi. Un truc très simple que je dis régulièrement, c'est si vous avez aimé l'épisode, que ce que vous êtes en train d'écouter, enfin ce que vous avez écouté et vous semble intéressant et pourrait intéresser d'autres personnes qui sont pas nécessairement dans le milieu de la thérapie, mais simplement des gens qui veulent en apprendre un petit peu plus sur la mécanique du corps, sur comment ça fonctionne et comment on peut essayer de s'améliorer pour faire mieux, pour être en meilleure santé, pour être peut-être aussi plus performant pour certains. Vous pouvez faire une story sur Instagram directement en fait, en partageant l'épisode comme ça, en parler autour de vous, hein, continuer à partager ces épisodes, c'est ce qui fait grossir le podcast, c'est ce qui fait que j'ai des invités voilà, des super invités où on parle de trucs variés et hyper intéressants, des parcours hors du commun aussi. Donc c'est ça. Là, je demande aussi toujours une petite note. Hein, si vous êtes toujours là avec moi, c'est qu'a priori vous avez plutôt apprécié la discussion d'aujourd'hui. Et si vous écoutez le podcast via l'application Apple Podcast de l'iPhone en fait, l'anciennement iTunes, c'est une des seules applications où je demande, enfin, qui est intéressant de mettre une note parce que ça permet de remonter dans les classements. Bon, en dehors de ça, c'est surtout que ça rajoute des notes, ça rajoute des commentaires. Mettez un commentaire aussi. Hein. Dites ce que vous pensez du podcast, ce que vous appréciez dedans, qui vous aimeriez voir, qu'est-ce qui vous a plu dans telle ou telle discussion. Comme ça, moi, ça me fait un petit feedback. Ça rajoute un commentaire sur le podcast et puis ça rajoute aussi une crédibilité dans un sens. Tu vois, plus il y a de, enfin, on sait comment ça fonctionne. Hein, plus il y a d'étoiles, plus il y a de commentaires, plus c'est plus facile d'inviter des gens connus, des gens qui ont peut-être une résistance. Ou alors, c'est plus difficile de rejoindre quand on a un podcast qui a beaucoup de notes. Bah, c'est plus facile en fait d'avoir un invité sur l'émission. Donc voilà pourquoi je demande des notes. Et puis j'ai fait le tour. Je vous laisse également le lien pour la lettre biomécanique qui est ma liste de contacts privés pour ceux qui veulent s'inscrire, où j'envoie un mail par mois, en général en début de mois, où j'essaye de faire un récap, je donne mes meilleurs conseils pour que vous améliorez vos entraînements, pour que vous soyez en meilleure santé, pour essayer d'adapter votre entraînement à votre douleur, pour que vous ayez plus de douleur, pour essayer de se débarrasser des blessures, tout ça. Allez juste cliquer sur le lien qui est biomecaniquepodcast.com/lettre. Vous allez voir la page de présentation. Si ça vous intéresse, vous laissez votre mail et puis vous recevrez une fois par mois mes meilleurs conseils d'ostéo orientés vers le sport et la santé, évidemment. Véronique, je pense qu'il est temps de se quitter, de dire au revoir à nos auditeurs. Merci à tous de nous avoir écoutés. Reste en ligne, évidemment, Véronique, comme je te le disais, on va se quitter en bonne et due forme après ça. Merci à tous d'avoir écouté 1h18, 1h20 de podcast. Ok, cette fois, on a été bien, on n'a pas dépassé les 2 heures. C'est cool. Passez une bonne semaine. On se retrouve comme d'habitude le lundi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, mais portez-vous bien, entraînez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomecaniquepodcast.com/lettre et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique, je suis Jérôme Cazerolle et je vous dis à très bientôt.